Olivier Denré.
Bonjour Marc, bonjour à toutes et à tous. Les combats se poursuivent ce matin sur le plateau du Golan. Ils opposent l'armée syrienne et les rebelles islamistes du front Al-Nusra pour la prise de contrôle du poste frontière de Kounetra. C'est une position stratégique pour les islamistes qui détiennent toujours plus d'une quarantaine de casques bleus de l'ONU. Des militaires fidjiens pris en otage et dont les visages ont été dévoilés sur le net par les combattants proches d'Al-Qaïda. Notre correspondante Hélène Bourgon nous appelle de Beyrouth au Liban.
Les photos des 45 soldats de nationalité fidjienne appartenant à la FINUL ont été publiées sur Internet par le front islamiste El Nosra. Ce dernier s'est emparé du point de passage de Kounetra, situé aux portes du plateau du Golan, qui appartenait à la Syrie et a été annexé par Israël en 1981. Depuis cette date, les deux pays n'ont jamais réitéré de guerre et la mission onusienne était là pour maintenir cette situation. Postés dans la zone tampon, les casques bleus ont pour rôle l'observation du désengagement entre Israël et la Syrie. Ils sont la victime de l'avancée des rebelles dans cette région où de lourds combats ont éclaté ces derniers jours avec les soldats syriens. Israël a mis en garde les assaillants s'ils poursuivaient leur offensive sur ces terres. Les islamistes de Jabhat el-Nusra ont, dans un communiqué, accusé l'ONU d'être du côté de Bachar el-Assad. Ils mettent en cause son inaction et son incapacité à voter des résolutions condamnant les violences perpétrées par le régime syrien depuis le début de la révolution. Bloquée par les vétos russes et chinois, l'agence onusienne n'a en effet jamais pu sanctionner la Syrie sur le papier. Les islamistes lui reprochent de l'avoir condamné à plusieurs reprises et de l'avoir inscrit sur la liste noire en tant qu'organisation terroriste. La communauté internationale est restée silencieuse jusqu'à ce jour et le sort des casques bleus reste incertain.
Par ailleurs, en Irak, l'armée régulière reprend aux djihadistes de l'État islamique la ville d'Amerli, située à 160 km de Bagdad. C'est la fin provisoire d'un siège qui aura duré depuis le mois de juin. Les militaires ont reçu le soutien de milliers de miliciens. Les Américains y ont opéré en amont un certain nombre de frappes aériennes. L'Irak, où les combattants kurdes vont bientôt, eux, recevoir une aide militaire en provenance d'Allemagne, des armes pour équiper quelques 4000 hommes et une livraison qui provoque déjà la polémique outre-Rhin. Les précisions à Berlin de Nathalie Versieux.
L'Allemagne a déjà livré quantité de vivres, couvertures et médicaments au nord de l'Irak. 6 soldats allemands seraient même déjà sur place pour préparer la prochaine livraison d'armes pour soutenir la lutte des Peshmerga contre les terroristes islamistes. En livrant des armes aux Kurdes, l'Allemagne brise le tabou qui interdisait jusqu'alors toute livraison d'armes à une région en crise, à l'exception d'Israël, dont l'Allemagne est un allié inconditionnel. Ce virage de la politique allemande suscite de vifs débat dans un pays majoritairement pacifiste. La presse parle déjà de militarisation de la politique étrangère de l'Allemagne et se demande jusqu'où ira le gouvernement Merkel. La chancelière insiste sur le caractère exceptionnel des livraisons aux Kurdes. Pas question pour l'Allemagne d'en faire autant avec l'Ukraine.
L'Ukraine, justement, et l'intervention russe dans l'est du pays. La situation sera évoquée aujourd'hui par le groupe de contact. Le ministre russe des Affaires étrangères dément toujours la présence de soldats russes en Ukraine. Il réclame d'ailleurs un cessez-le-feu immédiat. La Commission européenne doit-elle poursuivre son travail pour établir de nouvelles sanctions contre la Russie? Je vous rappelle qu'hier, le chef du Kremlin, Vladimir Poutine, a proposé la création d'un statut étatique pour les régions rebelles de l'Est. De quoi alimenter encore un peu plus la stratégie du président russe qui tente de dessiner les frontières d'une nouvelle carte d'influence. Comment va réagir le Hamas à cette reprise de la colonisation israélienne en Cisjordanie? Hier, l'État hébreu a en effet annoncé qu'il allait s'emparer de 400 hectares de terre à proximité de Bethléem. L'autorité palestinienne a rapidement réagi en demandant au gouvernement de revenir sur une décision qui va mettre de l'huile sur le feu. Moins de 6 jours après la fin des bombardements entre Gaza et Israël, force est en effet de constater que si les armes pour l'instant se sont tues, rien n'a changé sur le fond. C'est en tout cas le point de vue de Issam Younes, il dirige à Gaza le Centre des droits de l'homme.
Déjà, les bombardements ont cessé, sauf les drones qui couvrent toujours le ciel de Gaza. À part ça, nous attendons la fumée blanche. Nous devrions obtenir ce qui a été négocié. Le problème, c'est que nous ne savons pas 100% de ce sur quoi ils se sont mis d'accord. Sur la base de ce qu'on peut entendre dans les médias, il y aurait la levée des blocus, la reconstruction de Gaza, le financement pour reconstruire, mais je n'ai vu aucun document officiel. On attend. Les points de passage de Kerem Shalom et d'Erez sont ouverts comme ils ont l'habitude de l'être. Donc rien. Je dirais, on attend. Rien de nouveau.
Issem Younes était interrogé par notre envoyé spécial à Gaza, Ludovic Piétenu. Une belle journée en perspective après dissipation des brouillards matinaux. Le soleil brillera largement, sauf peut-être le long de la Manche où il pleuvra cet après-midi. Les températures ce matin sont comprises entre 9 et 20 degrés. Cet après-midi, elles iront de 19 à 30 degrés du nord au sud de la France.